Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter RMC. Bienvenue dans l'After Live spécial Ligue 1. Car oui, elle est de retour ce soir, notre bonne Ligue 1. La 9e journée lancée par l'actuel 2e du championnat olympique de Marseille ce soir sur le terrain du SCO d'Angers. On va au Stade Raymond Coppa dans quelques secondes. D'abord, bien sûr, comme tous les vendredis soirs, il sera là jusqu'à 23h. J'accueille Roland Courbis, notre coach. Bonsoir, coach.
Salut les amis. Salut à tous. Tu vas bien?
Bien. Est-ce que t'avais manqué la Ligue 1?
Je
trouve ça très long.
Très long. Un petit peu quand même. Hein.
On est d'accord. Ouais. Hein.
C'est vrai, c'est bon.
Et ça repart avec Marseille donc ce soir au stade Raymond Coppa. On y va tout de suite. C'est notre duo de commentateurs qui sera là dans quelques secondes. Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud. Ils nous donneront la composition officielle d'Angesco et de l'Olympique de Marseille, messieurs. Elle vient de tomber d'ailleurs. Je pense qu'on peut déjà la confirmer sous mes yeux. Dimitri Payet et Gerson, coach première information, seront titulaires ce soir.
À quel poste? Payet, on peut le deviner. Et Gerson dans le poste des deux numéros 10 ou des deux numéros 8?
Ça, c'est à confirmer avec Pierre-Yves et Xavier dans un instant, bien sûr. Dès qu'ils seront à nos côtés, ils ont un petit problème technique pour être tout à fait transparent avec vous. Je vous rappelle que ce soir, d'ici le coup d'envoi, on va parler également du PSG. Une information RMC Sport selon laquelle Hugo Ekitike va débuter pour la première fois demain soir au Parc des Princes avec son équipe face à l'OGC Nice. Tu me diras ce que tu en penses dans un instant. C'est Kylian Mbappé qui devrait souffler et être sur le banc de touche demain soir. On parlera également de Lorient, jusqu'où ce tube de l'été peut s'étirer dans l'automne, avec Régis Lebris qui a parlé en conférence de presse aujourd'hui. Et également, bien sûr, on parlera du SCO d'Angers. Je veux qu'on parle de Stephen Bouffal ce soir et d'un joueur. Je ne sais pas si tu l'aimes bien, je pense que oui, a priori, c'est Asdin Unai à Angers, 22 ans.
Ouais, pas mal.
Joueur très fin techniquement, qui fait partie des meilleurs dribbleurs européens.
Incertain, non?
Il était incertain, a priori, il débutera ce soir. On attend bien sûr d'un instant à l'autre Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 32-16, supporters marseillais, supporters angevins, pour évoquer cette rencontre, messieurs, et également supporters lorientais pour parler du succès de ce début de saison, supporters parisiens pour la composition probable du PSG, avec donc Ekitike qui devrait débuter pour la première fois depuis son arrivée l'été dernier au Paris Saint-Germain. Commençons donc par la composition. Alors, j'ai pas le détail, mais a priori, coach, la composition marseillaise, la voici. Paul Lopez dans le but. Bemba, Gigot, Balerdi dans l'axe. Défense à 3, bien sûr. Avec sur les côtés, Jonathan Clauss et Caboré. Verretou, Guendouzi devant la défense. Et Gerson, Payet, Luis Suarez, le trio offensif. Alors là, je sais pas ce que t'en penses, coach. A priori, Payet sur un côté, à gauche.
Sur un côté, non, puisque sur les côtés, c'est les pistons. Donc, Clauss, qui est habitué à droite, il est polyvalent et il peut jouer à gauche aussi, mais c'est pour dépanner, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, puisqu'il y avait Colasina qui pouvait éventuellement faire ça, mais qui s'est blessé lui aussi. Et Caboré, qui est la doublure de Clauss, côté droit. Après, Les deux milieux relayeurs récupérateurs, tu nous as dit Guendouzi et Verretou.
C'est ça. Oui.
Bon, donc et après, les deux numéros 10, Gerson et Payet, avec Suarez numéro 9. Bon, c'est une équipe qui paraît tenir la route.
Justement, ils sont là, bien là. Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Salut, les amis.
Petit problème technique, messieurs, je crois savoir. Plus une alerte également à Raymond Coppa, d'ailleurs. Quel début de soirée.
Il y a des joueurs qui ont des problèmes techniques, donc ne vous inquiétez pas.
Non, mais on va quand même vous raconter ce qui se passe. C'est qu'il y a une nouvelle tribune à Angers qui s'appelle le stade Raymond Coppa. Cette nouvelle tribune, elle est magnifique.
Elle est très magnifique.
Mais elle est en face de nous, puisque les lignes pour commenter n'ont toujours pas été installés. Donc on a traversé tout le stade, pour tout vous dire, et on est revenu sous le toit, au-dessus de la box présidentielle,
de l'ex-box.
Voilà, et on se retrouve sur nos anciennes lignes là. Bon, ça fonctionne, c'est le principal, mais voilà, c'est un peu cocasse, pour tout vous dire.
Bon, voilà, hein, c'est la preuve que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, hein. Il faut toujours revenir à la base, messieurs. Est-ce que vous avez la composition, s'il vous plaît?
Alors, pour être honnête avec toi,
alors vous savez ce qu'on va faire ?
On s'installe tout juste.
Autre histoire, les gars, que vous allez nous raconter ce soir, puisque cette soirée a démarré de manière très particulière. Il y a à peu près une heure, vous avez entendu ça au stade Raymond Coppa. Écoutez. Alors, pas du tout ça, d'ailleurs. Hein. Alors, on a des problèmes aussi, c'est technique. Hein.
Voilà, c'est ça.
Écoutez.
Bah ça, c'est une grosse ceinture de sécurité qui n'a pas été mise, non ?
Écoute, couche.
En raison d'un incident technique dans votre bâtiment, nous vous prions d'évacuer les locaux. Veuillez vous rendre aux portes de sortie de secours.
Voilà ce que Pierre-Yves et Xavier ont entendu. Alors pourquoi cette alerte ?
Bah, tu sais, dans un nouveau stade, il y a forcément des réglages, on en parlait il y a un instant. Et là, apparemment, ce sont les vapeurs des friteuses qui ont déclenché les sirènes. Donc voilà, les supporters qui étaient déjà là ont commencé à quitter le stade. On a tous un peu hésité. Et puis au bout de 5 minutes...
Il n'est pas arrivé les pompiers pour régler le problème des frites, quand même.
Non, ça n'a pas été jusque-là, Roland. Mais bon, pour l'instant, tout semble réglé au niveau des friteuses. On va voir au niveau des joueurs. Mais au niveau des friteuses, c'est bon. Et le stade se remplit tranquillement. Il y aura 18 500 spectateurs tout à l'heure, dont 500 Marseillais. Et on espère que tout va se calmer, tout va rentrer dans l'ordre, évidemment.
Il y avait eu des problèmes, excuse-moi, de couper la saison dernière.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, ça avait été assez compliqué.
J'espère que ça ne va pas être un match retour.
Non, et puis ça s'était très mal terminé aussi pour les supporters marseillais, puisque sur la route du retour, il y avait un minibus qui avait bien eu un accident avec un camion, et il y a un garçon qui était décédé. Il y aura tout à l'heure d'ailleurs une minute de silence juste avant le coup d'envoi.
Oui, absolument, on va le citer hein, pour lui rendre hommage, le jeune Clément. Il avait 23 ans, il était membre des Fanatiques, et effectivement il y aura son portrait qui va s'afficher sur les écrans géants de Raymond Coppa, et les supporters marseillais qui sont en train d'entrer dans leur parquage visiteur ont prévu également un hommage pour ce fan des Fanatiques.
Ça évitera, je pense, les problèmes, malheureusement, ce décès, cette photo.
Exactement, ça va. Même le COP de la Butte, le COP Angevin, a prévu de faire quelque chose pour rendre hommage à ce supporter. Donc ça va apaiser un petit peu tout.
Absolument.
Ça. Puisqu'on rappelle que lors des incidents, c'était dans la grande période où les incidents s'étaient un petit peu enfilés comme des perles sur les pelouses de Ligue 1. Il y avait eu le Nice-Marseille notamment, et les supporters marseillais ensuite avaient été interdits de déplacement jusqu'à la fin de l'année 2021, suite aux débordements et aux bagarres qu'il y avait eu lors de cet Angers-OM. C'était il y a quasiment un an. On a les compos qui tombent.
Allez, on vous écoute.
Alors, j'ai la compo Angevin, pour être honnête. Si vous me trouvez la compo marseillaise, je suis preneur. La compo Angevin va être simple, parce qu'on le disait dans Rotten sans flamme il y a quelques instants, Angers, Gérald Batic a peut-être trouvé son 11, a peut-être trouvé son système avec un 4-4-2. C'est exactement la même équipe que celle qui a battu et Montpellier et Nice juste avant la trêve. On aura donc Yaya Fofana, le jeune gardien, dans les buts, une défense avec Souleymane Doumbia à gauche, Blazic Utunji en défense centrale et Yann Valéry sur le côté droit. Deux milieux de terrain, relayeur récupérateur Ben Taleb qui sera capitaine et Baptista Mendy. Et un quatuor d'attaque, les ailes 100% marocaines avec Sofiane Boufal à gauche, Asdin Ounahi à droite, et le duo d'attaque, donc Adrien Hunou et Sima, le jeune Sénégalais qui est revenu de blessure et qui est titulaire donc depuis deux matchs. Exactement la même compo, trois fois de suite donc pour Gérald Batic.
Il y a deux joueurs à l'extérieur qui sont quand même deux très bons joueurs.
Boufal et Ounahi, ouais. On pourrait y revenir. Roland, ils font partie les deux sont dans les trois meilleurs dribbleurs du championnat. C'est vraiment de très bons joueurs. Ils vont animer les ailes qui ont pourtant joué en sélection. Ils étaient titulaires lors des deux matchs du Maroc pendant la sélection. Ils vont enchaîner ce soir en Ligue.
Effectivement, pas de composition marseillaise pour l'instant, les gars, vous confirmez ?
Pas encore, non.
Pas d'officialisation. Bon, on attend ça d'un instant à l'autre. C'est un peu tard, c'est vrai. En général, elles tombent beaucoup plus tôt, les compositions officielles. Alors, il est 20h10.
La composition qu'on a donnée, elle sort d'où, là ?
Elle sort de...
Du Twitter, pour être honnête, du Twitter du SCO d'Angers. Le Twitter officiel du SCO.
Vous parlez de la composition marseillaise, coach, effectivement.
Ah, pardon.
De nos éléments à RMC Sport, coach, hein, mais qui sont encore à confirmer. C'est une composition probable. Je croyais qu'elle était officielle. Confirmation dans un instant, bien sûr. Commençons par Angers, les gars, puisqu'on n'a pas la composition marseillaise pour l'instant. On parlait un instant d'Asdin Ounahi, qui est un des meilleurs dribbleurs de la Ligue 1, mais également d'Europe. Hein. J'ai vu cette stat. Il est deuxième derrière Léo Messi dans le top 5 des joueurs qui ont réussi le plus de dribbles cette saison, avec 22 dribbles.
Ouais, c'est pas mal, hein, effectivement. Alors après, il a fait un bon premier match contre Nantes, et on s'était dit, ça y est, c'est parti pour Ounahi, ce milieu de terrain qui vient d'Avranches. Manche, hein, qui a signé en 2021 pour 4 ans et qui a prolongé d'un an dès cet été. L'année dernière, bah, il était un peu rentré déjà dans le rythme, mais au niveau des stats, il était à 2 passes, 2 buts. Il y a eu ce match à Nantes et puis derrière, il a un petit peu plongé, mais à l'image de toute l'équipe. Et puis c'est vrai que notamment contre Montpellier, il a fait sa plus belle plus belle mi-temps, la première en l'occurrence. Derrière, ça a été un petit peu moins bon. Le problème, c'est qu'il est souvent obligé de jouer milieu droit alors que c'est un axial, mais c'est le cas aussi pour d'autres joueurs. On pense à Unou du côté d'Angers qui sont pas forcément à leur bon poste, mais il y a un potentiel très important du côté de Unai et on a le sentiment que là, comme l'équipe, ça y est, c'est parti. On verra ce soir, évidemment, mais ces deux matchs ont fait énormément de bien et en général, ah, oui. Ça joue sur tout le monde, donc on peut penser que pour lui aussi, ça va démarrer.
Pour ce joueur, en ce qui concerne les stats, puisque nous sommes dans une période, dans une époque où les stats sont très importantes, mais on ne peut pas non plus avoir toutes les stats. Il y en a une de stats qui est peut-être son point fort, c'est le fait d'obtenir des coups francs, je ne parle pas des pénalties, pourquoi pas aussi des pénalties, des coups francs qui peuvent être dangereux. Et ensuite, dans les buts et les dernières passes, ok, mais il y a les avant-dernières passes qui sont très importantes. Et lui, entre les dribbles et les coups de pied arrêtés intéressants qui peuvent permettre à son équipe d'être dangereuse, je crois que ça fait partie de son point fort.
Alors, Xavier, tu peux nous confirmer la composition qu'on a donnée il y a quelques minutes?
En fait, c'est celle qui était effectivement attendue avec donc Paul Lopez dans les buts, les trois défenseurs centraux, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Les deux pistons, Jonathan Klaus et Issa Kabore. Au milieu de terrain, Jordan Veretout, Matteo Guendouzi. Et les trois attaquants, ce sera bien Gerson, ce sera bien Dimitri Payet et ce sera bien Luis Suarez à la pointe de l'attaque. Alexis Sanchez est sur le banc, lui qui a joué également en sélection avec le Chili pendant la trêve.
Issa Kabore donc titulaire ce soir, lui qui est prêté, je le rappelle, par Manchester City, qui était venu remplacer numériquement Paul Lirola. On va débriefer dans un instant la composition marseillaise avec coach. On va le refaire parce qu'il y a un faux départ tout à l'heure. Garen sera avec nous également, supporter de l'OM au 32-16. Et on revient vers vous, messieurs, Pierre-Yves Leroux, David Grimaud, au stade Raymond Coppa. Maintenant 47 minutes du coup d'envoi de la 9e journée de Ligue 1 sur RMC. Angesco face à l'Olympique de Marseille. A tout de suite.
RMC, l'After Live.
Nicolas Jamain.
Vous écoutez RMC 20h14, c'est l'After Live spécial Ligue 1. Elle est de retour à la Ligue 1 dès ce soir, 21h, coup d'envoi de la 9e journée. Angesco face à l'Olympique de Marseille. On est avec Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud qui sont au stade Raymond Coppa. Coach Courbis à mes côtés, bien sûr. On va rappeler quand même les compositions. Messieurs, commençons par la composition d'Angers, s'il te plaît, Xavier.
Oui, la composition du SCO avec, donc on le disait, troisième composition de suite, similaire pour Gérald Batty qui a sans doute trouvé la formule. Yaya Fofana dans les buts, défense à 4 avec Yann Valéry sur le côté droit, Utunji Blazic en défense centrale, Souleymane Doumbia arrière gauche, deux milieux de terrain, relayeur récupérateur, Bentaleb capitaine du soir et Batista Mendy, Asdin Unai sur l'aile droite, Sofiane Boufal ailier gauche et deux attaquants, Sima et Adrien Unou.
Et la composition marseillaise, Pierre-Yves Leroux.
Avec Lopez dans les buts, Mbemba, Gigot, Balerdi en défense, en milieu de terrain, Kabore sur le côté droit, Klaus sur le côté gauche, Guendouzi, Verretou, Payet et Gerson, et à la pointe de l'attaque, Suarez.
Garen est avec nous, supporter de l'Olympique de Marseille. Bienvenue Garen sur RMC.
Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir,
coach. Heureux de t'accueillir avec le coach, bien sûr, Garen.
Merci,
alors,
merci. Bon,
que penses-tu de la composition? Qu'est-ce que tu retiens de la composition? Excuse-moi.
Écoute, moi, la compo, je pense que c'est la bonne au niveau du qui avait les matchs internationaux. Je pense que Sanchez est un peu fatigué. Je ne sais pas s'il est blessé parce que c'est bizarre qu'il ne joue pas. Après, voilà, je pense que quand même, c'est une compo. Il va manquer un peu ce genre de partition. Parce que pour moi, Payet et Gerson, c'est un peu le même style de jeu. Donc, je suis un peu déçu qu'il soit associé. J'aurais aimé voir peut-être un Under ou je sais pas, ou Amin Harit qui est en forme en ce moment. Donc, voilà, après, voilà, j'ai peur que ce match ressemble un peu au match précédent. Avec moins d'intensité, moins de percussions. Et voilà, j'espère qu'on va gagner, parce que les enchaînements de matchs sont très très compliqués. Quoi.
Pour les précisions que tu donnes en ce qui concerne Under, Sanchez, essayons de nous habituer à ne pas dire ces joueurs-là, ils ne jouent pas. Ils ne démarrent pas. Donc, et un garçon comme Sanchez peut très bien rentrer en cours de match avec Under et être parmi les artisans d'un bon résultat sur la fin. Et ensuite, en ce qui concerne, Gerson et Payet, ben, chacun ses goûts. mais je préfère avoir dans une zone offensive qu'on peut considérer comme des numéros 10, je préfère avoir Gerson et Payet que Guendouzi. Et Guendouzi, je préfère le voir un peu plus bas.
Alors ça, je suis totalement d'accord avec toi pour Guendouzi, parce que pour moi, il manque de finesse technique quand il joue numéro 10, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, pour moi, Gerson, c'est pas un joueur qui peut jouer très haut, parce que on va dire qu'il est un peu lent dans son suite de jeu. Et moi, je le verrais plus comme un 6 ou un 8 qu'un 10. Pour moi, il est trop sur le terrain, et il apporte pas assez sur le terrain. Je me rappelle l'année avec Sampoli, quand il avait un peu de profondeur, quand il menait un peu de derrière.
Tu veux dire par là, tu préférerais donc Gerson dans la zone des deux numéros 6-8 de l'OM. Exactement. Et un Under qui est un peu plus attaquant, un peu plus tranchant. Exactement. Dans certains dribbles et tout, que Gerson. Ben ouais, ça se tient ce que tu dis, mais ça peut se faire en cours de match.
Ouais, pourquoi pas, mais après je trouve comme le terrain manque de Veretout, je trouve que c'est depuis la début de saison c'est assez moyen, surtout sur des gros matchs quand il y a des impacts physiques, on le voit plus. Après contre Angers ça peut passer vu le faible niveau technique qu'il y a en Ligue 1. Ouais, on peut gagner, comme les 5 matchs de Ligue 1, on a gagné. Et de toute façon, j'espère qu'on va gagner ce soir, parce qu'après, vu l'enchaînement des matchs, on a intérêt de gagner.
Exactement.
Parce que ça peut vite sentir la crise. Quoi.
Exactement, Garenne, hein, c'est un marathon qui débute ce soir pour l'OM. Hein, 11 matchs en 50 jours d'Angers ce soir à Monaco le week-end du 12 au 13 novembre avant la trêve de Coupe du Monde. 8 matchs de Ligue 1, 3 de Ligue des Champions, 2 matchs par semaine. C'est une question ça aussi, coach, qu'on peut se poser. Est-ce que cet effectif-là peut tenir la cadence?
Bah, évidemment que si tu perds un ou deux joueurs par match, ça va finir par s'essouffler. Et là, disons que c'est limite déjà au niveau des trois arrières centraux.
Et oui.
Quand on voit comment nous avons terminé le match contre Francfort, entre autres, tiens, dans le dispositif A3, donc on est bien d'accord, c'est Bamba qui devrait jouer le côté droit des trois arrières centraux.
Ouais.
Et qui après dans l'axe, Gigot ou Balerdi?
Gigot, oui, c'est ça.
Gigot et Balerdi à gauche dans la zone de Unai.
Exactement.
Eh bien, on va voir ça.
Tu l'aurais préféré dans la zone de Bouffal, Roland?
Ah non, je l'aurais préféré. Ni l'un ni l'autre, je l'aurais préféré sur le banc. Dans l'axe, tant qu'à faire.
Ah, ou dans l'axe, à la place de Gigot. Bon, on aura la confirmation dans
notre plateau.
D'abord, coach, tu auras la parole après.
C'est peut-être ça qui se passera.
Garenne.
Mais donc juste un petit mot pour terminer, moi j'étais passé à l'antenne à l'intersaison. Bon, j'étais assez déçu de l'intersaison parce que moi Saint-Pauli c'était mon chouchou jusqu'au quand je l'aimais pas trop. Et donc j'attendais le début de saison avec attention. Bon, ça a bien commencé. Par contre voilà, attention, moi je pense qu'il y a danger sur ces 2-3, comme tu as dit, sur ces 2-3 prochaines semaines. Et on sait comme ça l'OM, quand on gagne, tout va bien. Et par contre, si on perd ces prochains matchs, ça peut très 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 vite devenir le feu. Surtout qu'à l'OM en ce moment, en interne, ça va pas trop bien non plus. Donc moi, j'ai dit, attention, ces 3 prochaines semaines jusqu'à la Coupe du Monde, parce que ça peut aller très bien comme ça peut aller très mal. Voilà.
Bon, on aura un début de réponse ce soir.
Ça va vite, et pas seulement à l'Olympique de Marseille. Ça va vite dans le très haut niveau. Tu vois que ça peut aller vite aussi du côté de Lyon. Mais c'est vrai que du côté de Marseille, ça va des fois et souvent un peu plus vite qu'ailleurs.
Merci Garenne, très bonne soirée à toi et bon match.
Dernier mot, petit dédicace.
Vas-y.
Il y a Dujardin qui joue en Coupe de France dimanche prochain. Coach, tu peux venir, hein, c'est au stade Central Africa, je pense que tu le connais.
Ah voilà. Mais je le connais, j'ai même joué, la dernière fois que j'ai joué, c'était en Gambardella contre le Girardi, voilà. Et je peux même te donner le score, on avait gagné 4-0, et pourtant il nous attendait de pied ferme, mais on ne s'était pas dégonflé.
Quelle mémoire, coach.
Ça
remonte à combien de temps, ça, coach?
Ça remonte dans les années 70. J'avais 17-18 ans.
Donc il y a 50 ans environ, tout simplement.
Tu vas aller vestiaire ou pas, coach?
Hein?
Tu es sorti un seul morceau des vestiaires ou pas?
Non, ouais. C'est sorti en un seul morceau des vestiaires et tu demandes Garenne ou pas?
Non, ça va, c'est bon.
Ça avait
été un match agressif, okay. Mais ce qui s'était passé, super correct. Et puis bon, nous, on était meilleurs qu'eux, on l'avait démontré. Ils avaient eu l'intelligence de l'accepter en étant déçus. Et on est parti vraiment copain-copain.
C'est magnifique, on est en train de débriefer un match qui s'est joué il y a 50 ans. C'est ça aussi, l'After Live. Merci Garenne, très bonne soirée à toi. À bientôt sur RMC.
Salut Garen.
Coach, est-ce que toi t'aimais en tant qu'entraîneur jouer deux fois par semaine?
Si j'avais l'effectif, ça me dérangeait pas du tout. Mais si tu veux, j'aurais bien aimé être dans cette époque-là avec 5 changements. Ah c'est-à-dire oui. que j'aurais utilisé 3 changements sur 5 pour expliquer à un joueur ce que je faisais déjà à l'époque, mais avec un ou deux joueurs. C'est-à-dire que j'appelais le 60-30, mais le joueur était déjà OK. Était déjà au courant qu'il n'allait jouer que 60 minutes et l'autre il se préparait pour jouer les 30 autres minutes et dans ces 60 premières minutes eh bien, le joueur n'avait pas besoin d'en garder sous la godasse, il savait que son match à lui c'était un match de 60 minutes et eh bien tu ne fais pas les mêmes efforts bien tu ne fais pas les mêmes économies et je trouverais ça très intéressant mais je pense que j'ai rien d'un génie. Mais j'ai pas l'impression, d'après ce, parce qu'on est quand même au courant de tout, qu'il y a des changements, ou c'est très rarement qu'il y a des changements prévus. Quand je vois des changements à la 87e minute.
Après, mais coach, après, c'est aussi l'histoire du match qui raconte les changements, qui détermine les changements.
Comment tu veux dire ?
Mais je veux dire, si tu dis la veille du match à ton joueur, tu vas jouer une heure et tu sortiras,
oui.
mais que le match finalement ne se déroule pas comme tu pouvais l'imaginer peut-être, et que ce joueur-là doit rester sur le terrain.
Oh ben non, puisque c'est.
Tu te tenais forcément à ce que tu avais prévu.
Eh ben oui, puisque dans tous les cas, c'était souvent un poste de 6-8. Et les postes de 6-8, quand tu as des gros effectifs, ce sont des joueurs qui peuvent se remplacer sans pour autant baisser le niveau. Quand tu vois le Paris Saint-Germain, les 5 milieux 6-8 qu'ils ont, si tu sors Verratti et
comment il s'appelle Vitinha.
Et Vitinha, et que tu mets Ruiz Soler ou comment c'est l'autre
Renato Sanchez.
Oui,
à qui
Danilo, tu baisses pas ton niveau et au contraire, tu ne tires pas sur le même organisme pendant 93 minutes où tu vas peut-être le regretter trois jours après. Il y a certains postes et notamment les couloirs qui sont doublés, mais ils sont pas doublés pour faire 87 minutes et 3 minutes. Ils sont doublés pour faire des 60-30 ou des 70-20.
Je t'ai demandé, si toi, ça te dérangeait pas de jouer deux fois par semaine, parce que la question était posée également sur ce calendrier à Igor Tudor, coach.
Mettons-nous d'accord d'un truc. Quand tu dis deux fois par semaine, tu veux dire par là trois fois par semaine.
Oui, si tu veux. Voilà. C'est ce qui va arriver quasiment à Igor Tudor sur deux matchs par semaine, mais en fait trois matchs sur 7-8 jours.
Voilà.
En réalité. Écoutez ce qu'il a répondu.
Je ne suis pas énervé. Tous les entraîneurs ont le même avis que moi. On joue trop. Le football est devenu un business. C'est quelque chose qu'on doit accepter quand on en fait partie.
Voilà, Igor Tudor, lui, qui déplore ce rythme infernal qu'il attend, ces 11 matchs en 50
Mais
jours.
La qualité dans cette époque de l'entraîneur, peut-être il faudra passer comme qualité numéro 1. Mais c'est savoir changer les joueurs et savoir faire ce qu'on appelle les turnovers.
Les turnovers. Je rappelle que les joueurs, eux, quasiment tous, coach, aiment jouer tous les trois jours en général. Ils aiment moins s'entraîner et moins les longues séquences d'une semaine à l'entraînement.
Oui, mais bon, la gestion, là aussi, elle est passionnante et compliquée parce que tu ne peux pas faire les mêmes entraînements pour des joueurs qui jouent plus que d'autres. Donc, tu sais très bien que après, il y a aussi une gestion à faire en ce qui concerne les cartons. Tu as des joueurs qui ont deux cartons, eh bien, tu peux peut-être aussi les mettre au repos le match d'après si tu sais qu'à un ou deux matchs près, eh bien, il va éviter de prendre le troisième. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que l'entraîneur, aujourd'hui, ça a toujours été le cas, mais je ne suis pas étonné qu'il soit entouré de plusieurs personnes.
Une armée avec
alors,
lui.
Alors qu'à une certaine époque, on avait quand même deux adjoints, un préparateur physique, et on se débrouillait. On n'est plus dans cette époque-là.
Clairement, l'époque a changé. Allez, on revient dans un instant dans l'After Live. On retournera au Stade Raymond Coppa retrouver Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud pour évoquer notamment Angers. On va parler de Gerson aussi, un tout petit peu, qui n'a pas encore lancé sa saison. Lui qui avait été brillant la saison dernière. Payet également au programme de l'After Live. Reste avec nous dans un instant le PSG. Équipe qui est titulaire demain soir pour la première fois de sa carrière au PSG. Appelez-nous au 32-16 supporters du Paris Saint-Germain. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Nicolas Jamain.
Merci d'écouter RMC, coach Courbis, l'After Live, 20h30 dans une demi-heure.
précisément le coup d'envoi du match entre Angers et l'Olympique de Marseille, coup d'envoi de la 9e journée de Ligue 1. Demain soir également 21h, le leader, le Paris Saint-Germain, face à l'OGC Nice au Parc des Princes. Christophe Galtier qui va retrouver d'ailleurs 3 mois plus tard son ancienne équipe. Et donc info RMC Sport, signé Fabrice Hawkins, Hugo Ekitike devrait débuter pour la première fois depuis son arrivée l'été dernier. C'est Kylian Mbappé qui lui devrait souffler. Attaque probable donc Messi, Neymar, Ekitike, prévu demain soir. Je rappelle que Ekitike, pour l'instant, on ne l'a vu que 66 minutes cette saison sur le terrain. Coach, voilà, on sait que ce joueur commençait doucement à s'impatienter. Il va enfin avoir l'occasion de se montrer.
Oui, mais la question que tu me poses, c'est...
Ça te surprend ou pas de le voir débuter demain soir?
Ben, si tu veux, un peu quand même. Puisqu'on peut se demander aussi pourquoi il n'a pas disputé avant. C'est quelle journée
9e journée déjà, hein.
Voilà, donc en huit journées, il n'a pas démarré une fois, il n'est pas rentré une fois plus d'une demi-heure ou même pas. Bon, ce qui est quand même une coïncidence un petit peu bizarre, c'est que ce joueur-là devient titulaire à partir du moment où, juste dans la période où Mbappé interrogé et interviewé sur son utilisation en équipe de France par rapport au Paris Saint-Germain, il a dit que c'est pas du tout la même, et ça voulait dire aussi que s'il avait à choisir, eh ben ça serait plutôt une utilisation comme il est utilisé en équipe de France plutôt qu'au Paris Saint-Germain.
Donc tu veux dire un vrai neuf devant lui qui lui offre ce pivot qui lui manque, ben, et qu'il a avec Giroud en équipe de France, au cas sur la semaine dernière.
C'est-à-dire que aussi, ce qu'il veut faire passer comme message, que lui-même, même s'il peut y jouer, même s'il dépanne parce qu'on lui demande, ce n'est pas son poste. Mbappé, ce n'est pas un neuf. Et donc, il peut y jouer en neuf tellement qu'il a des qualités, mais ce n'est pas un neuf. Ekitike, oui. Encore que,
oui, il y a un débat là-dessus.
C'est pas Haaland, c'est pas Lewandowski qui sont pour moi les vrais neufs et les deux meilleurs en activité. Chacun ses goûts, mais bon, je vois pas un autre numéro 9 qui m'aurait échappé, qui soit supérieur à Lewandowski et Haaland.
A priori, non.
Après, on va en trouver 4 ou 5 de bons.
Derrière, quoi. Voilà. Mais les deux sont bien ceux-là.
Donc ça, c'est sûr que Mbappé, si on le compare à Lewandowski et Haaland, on pourra dire que, avec toutes les qualités, il est peut-être à égalité ou supérieur à eux, mais pas au poste de numéro 9, à son poste à lui, c'est-à-dire un milieu offensif attaquant qui est un peu plus à l'aise côté gauche que côté droit et qui est nettement meilleur quand il prend ses élans.
C'est vrai. En tout cas, c'est dommage. Demain, il avait l'occasion, Mbappé, peut-être de jouer avec Ekitike, ce point d'ancrage, peut-être devant. Finalement,
attention, là aussi, comme je disais tout à l'heure, il ne démarre pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne passera pas quelques minutes sur le temps. Et aussi, peut-être, il y a un truc qui nous échappe. C'est qu'il est rentré en équipe de France, pas seulement en ayant joué les deux matchs en 3 jours. Il a peut-être pris un coup, il a peut-être discuté avec Christophe Galtier, ils sont tombés d'accord. Donc, partons pas tout de suite.
Il n'était pas à l'entraînement hier d'ailleurs, Mbappé, t'as raison.
Partons pas tout de suite sur le débat de dire, bon, allez, c'est un petit peu une mini-sanction.
Non. Tu nous connais, on ne fait pas ça, nous, ici, jamais, hein.
Mais c'est pas de nous spécialement.
Je plaisante.
Mais tu verras que la question, on se la posera.
Mathéo est avec nous au 32-16, supporter du PSG. Salut Mathéo.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Très bien, Mathéo. Et toi?
Mais ça va. Je trouve qu'il y a une petite forme de schizophrénie Mbappé en ce moment qui se dégage. C'est-à-dire que les gens veulent voir des problèmes là où il n'y en a pas forcément. Lui aussi joue de ça avec ses déclarations parfois.
Ah bah c'est lui qui allume quelques petites mèches quand même parfois,
bien sûr,
tu sais.
Mais c'est des mèches toujours très contrôlées. Et je ne crois pas du tout qu'il y ait de la part de Christophe Galtier une volonté de sanction.
Ah non, absolument
simplement
pas.
Il veut faire tourner comme c'était prévu. Moi j'ai regretté l'absence par exemple de Hugo Ekitike contre Brest, qui était un match à quelques jours d'un match de Ligue des Champions où il aurait eu sa place. Bon bah là écoutez, il va jouer là. Il va y avoir 9 matchs en un mois. Je pense qu'il aura un peu plus de temps de jeu, c'était prévu, même après la Coupe du Monde, donc on oublie beaucoup, mais après la Coupe du Monde, il y aura 3-4 journées de Ligue 1 où des joueurs comme Mbappé, Neymar, Messi rentreront plus tard, du fait qu'ils vont loin, on le souhaite, en Coupe du Monde. Donc, je crois pas que ce soit un problème. Il faut en effet que ces joueurs-là aient du temps de jeu. Quant à ce que ce soit Mbappé sur le banc, ça me choque pas, puisque Neymar et Messi ont eu ce rôle-là précédemment. quand je dis schizophrénie, c'est que on a l'impression qu'au PSG, il faut toujours chercher des poux sur la tête. Alors, en effet, le club le cherche, mais lorsqu'on voit là que depuis tout le début de saison est plutôt bon, on a peut-être une petite polémique différente, plus ou moins liée à Mbappé, que ce soit sur le char à voile, que ce soit sur les déclarations de Julien Fournier avec Galtier, etc. Moi, je crois qu'il faut prendre un peu de recul. Il faut se poser, il faut voir les choses comme elles sont. C'est simplement un attaquant star qui va être reposé, puis sans doute il va rentrer, Coach Courbis a raison. Et pour terminer sur le cas Mbappé, quant au point d'ancrage voilà, qui pourrait manquer au PSG, je crois que Luis Campos l'a reconnu, Christophe Galtier aussi. Le PSG voulait signer un neuf un peu pivot à la Giroud, si j'ose dire. Ils n'ont pas pu, dont acte. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'Hugo Ekitike, si bien qu'il soit grand, mais pas en
rôle
d'un excellent joueur de la tête, et qui est plutôt un joueur d'espace au profil Mbappien. Et justement, c'est assez logique qu'il le remplace, je crois, dans la tête de Galtier. Sarabia et Carlos Soler sont les remplaçants, comment dirais-je, numériques de Messi et Neymar, et Ekitike celui de Mbappé. Donc il y a une forme de logique dans tout ça. Et n'allume
après,
pas un feu
après, là, après le rôle d'Ekitike peut aussi évoluer. Hein. Tu sais, peut-être bien qu'ils vont décider d'en faire à terme une solution en numéro 9. Mais tu as raison, c'est un avaleur d'espace, Ekitike. C'est un joueur qui aime jouer sur un côté, repiquer dans l'axe, frapper. C'est non, pas un mec qui campe dans la surface de réparation. Passons les voies de ski.
Quand on regarde les erreurs, des erreurs, tout le monde en fait. Du Paris Saint-Germain sur ces dernières années, ça n'a pas échappé, même si Campos est très compétent dans la vision du football, dans le recrutement, dans choisir des joueurs complémentaires. Et quand il dit qu'il est pas content de son recrutement, c'est justement effectivement peut-être en premier le fait de ne pas avoir trouvé un numéro 9.
Mais sans vouloir offenser Coach Courbis, je pense que l'absence d'un défenseur central dans une défense à 3 quand on en a que 4 est un peu plus grave que l'absence d'un attaquant.
Oui, ça aussi, mais ça peut se réparer dans deux mois, parce que le prochain mercato, c'est pas dans 10 mois, c'est dans 2 mois. Donc le Paris Saint-Germain et ceux qui décidaient avant Campos ont quand même cherché un numéro 10 de talent et tout. Il s'appelait tout simplement Icardi. Maintenant, quand on voit, si tu veux, ben, la personnalité d'Icardi, son train de vie, les interventions de sa femme et tout, ben, mais c'est sûr que ça n'a pas été une réussite. Mais le fait de vouloir un numéro 9 de grande qualité, ça se cherche depuis plusieurs années, et ça c'est pas encore trouvé.
Bien sûr, après c'est Mbappé, enfin voilà, je veux pas, moi mon but c'est pas, voilà, il y a une sorte de Mbappé bashing un peu qui s'oppose à une sorte de self-défense d'Mbappé. Moi je pense qu'il faut beaucoup de nuances sur le 4e Mbappé. Néanmoins, Mbappé aussi à une époque demandait à jouer neuf. C'est lui-même qui
dit qu'il
s'identifiait plus comme un neuf. Donc moi je trouve ça très bien. Je pense que c'est en effet un joueur qui n'est jamais aussi bon quand il a un point d'appui à côté de lui. Ça a été le cas avec Falcao à l'époque, avec Giroud à la Coupe du Monde, et en effet il est toujours plus efficace quand il peut dévorer les espaces comme ça. Après c'est aussi lui qui veut parfois être plus au cœur du jeu, qui veut, et on lui a reproché parfois organiser le jeu et peut-être prétendre à un
Mais je crois Mathéo qu'il faudrait, et coach tu es là aussi pour ça, je te pose la question, s'entendre sur la définition du numéro 9 en fait.
C'est
on
ça.
Parle de quoi? Oui. Le neuf traditionnel, type Lewandowski, comme tu mentionnais tout à l'heure.
Ou un neuf. Non, mais Haaland qui dit, moi, je veux toucher un ballon dans un match, je suis content, je marque 5 buts.
Voilà, c'est ça, par exemple. Ou un neuf façon Mbappé, comme il a son mot à l'esprit, qui a quand même une certaine liberté, qui peut.
Considérant qu'un neuf, dans les qualités d'un neuf et dans le profil d'un neuf, il y a en premier, je dirais, ou vraiment quelque chose de très important comme détail, c'est un finisseur. C'est-à-dire un joueur capable de marquer pas mal de buts à une touche. Ça, Mbappé peut le faire. Mais Mbappé, c'est du gaspillage de pas lui faire faire autre chose. C'est-à-dire
de sa vitesse,
des accélérations. Et pour se servir de ces accélérations, il faut qu'il prenne les élans.
Oui.
C'est-à-dire, c'est comme si tu fais le saut en longueur et que tu te mets à pieds joints sur la planche et que tu essayes de sauter. Non, il faut que tu prennent les élans pour justement
Mbappé faire, est meilleur lancé, ce que tu dis, quoi, avec sa pointe de vitesse.
100 fois, mais lui-même aussi, je lui apprends. Et...
Mathéo, merci d'être venu avec nous. Merci, à très vite. C'est un plaisir de t'accueillir encore une fois, Mathéo, qui est un habitué d'RMC. Autre info avant ce match, PSG Nice au Parc demain soir 21h. Grand retour donc de Renato Sanchez dans le groupe parisien. Absence de Verratti suspendu, convalescent également. Et de Kimpembe, toujours blessé. Je rappelle que le PSG, bien sûr, a un match avec des champions qui va venir très vite après ce match. Hein. Ce sera mercredi soir sur la pelouse de Benfica.
pas simple.
Pas simple du tout.
Pas simple.
Paris, heureusement, a déjà assuré 6 points sur son début de phase de poule de Ligue des Champions. Allez, reste avec nous et coach Courbis. Dans un instant, l'After Live se poursuit. On va retourner au Stade Raymond Coppa avant cette affiche de la soirée de la 9e journée de Ligue 1. Angers Olympique de Marseille. Appelez-nous, supporters Angers Marseillais, pour parler notamment de Gerson, pour évoquer Sofiane Boufal. On a déjà parlé de Naï tout à l'heure. Et Gérald Batik, qui a sauvé sa peau in extremis juste avant la finale internationale. A tout de suite.
RMC, l'After Live.
Nicolas Jamain.
L'After Live sur RMC dans 15 minutes, au coup d'envoi de la 9e journée de Ligue 1. Le SCO d'Angers, Angersco, faut-il dire, reçoit l'Olympique de Marseille, le 14e de Ligue 1, face au 2e du championnat de France. Messieurs, Pierre-Yves Leroux est au stade avec Xavier Grimaud, au stade Raymond Coppa. Coach Courbis est à mes côtés. Parlons d'Angersco, c'est bien comme ça qu'on dit, les gars, on est d'accord.
Oui, on peut dire le SCO d'Angers.
On peut dire le SCO d'Angers aussi, oui, je crois que c'est Angersco, je dis ça partout, Angersco.
D'Angers, tu sais qu'il y a du danger.
C'est ça.
Alors, y aura-t-il du danger ce soir? En tout cas, l'entraîneur du SCO d'Angers était en difficulté, en danger en ce début de saison. Début de saison catastrophique d'ailleurs, 2 nuls, 4 défaites. Et puis, il a sauvé sa tête, messieurs, in extremis, juste avant la trêve.
Est-ce que le président, avant les deux victoires, il n'avait pas confirmé en disant on ne changera pas de.
Absolument, d'entraîneur? Oui. Absolument. Il avait dit texto, Gérald Batik sera l'entraîneur du SCO jusqu'à la fin de la saison.
Et je ne sais pas si coïncidence, ça n'a pas un petit peu débloqué une certaine angoisse ou quoi. Mais coïncidence, après ces belles paroles de notre ami Chaban, eh ben, deux victoires.
Oui, parce que ce qui se murmurait aussi, c'était que quand même, il avait deux matchs pour inverser la tendance. Donc, bon.
Donc, une forme d'ultimatum quand même, non dit, quoi.
Ouais, ouais. Et puis, ce qui a sauvé le SCO d'Angers, c'est Fabien Galthié, en fait. C'est ça la surprise. C'est ça l'info que je vous donne ce soir.
Il y a des endroits où on lit un nombre de points qu'il va falloir atteindre en temps de match et tout.
Tu penses à Lyon et la Bosse.
Entre autres. Mais là, par contre, il a bien précisé. Nous ne changerons pas de d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Il n'a pas dit jusqu'à la coupure internationale.
Hein. Oui, tout à fait. Et si je vous parle de Fabien Galthié, c'est tout simplement parce qu'en fait, après la mauvaise série, évidemment, et du côté d'Angers, dans la semaine qui a précédé la réception de Montpellier, Gérald Batik a proposé en fait un exercice à ses joueurs. Il leur a dit, vous avez des morceaux de papier, vous avez un crayon, vous écrivez ce qui, pour vous, semble ne pas aller. Et en gros, toute cette séance, inspirée par ce que fait parfois Fabien Galthié, hein, il l'a dit, Gérald Batik, ça a créé en fait...
De manière anonyme, hein, au départ, de manière anonyme.
Oui, c'est ça. Sur le papier, vous écrivez ce que vous voulez, mais de manière anonyme. Ça a créé en fait une grande discussion entre tout le groupe. Tout le monde s'est regroupé. Ça a permis, semble-t-il, de libérer un petit peu la parole. Oula. Alors, il n'y a pas que ça. Cette histoire du papier, il l'a utilisé aussi, Régis Lebris, en stage. Exactement.
Si tu ouvres le papier, il y a marqué le coach.
Pourquoi pas, les gars? Donc,
en tout cas, ça va mieux. Il y a eu deux victoires. Voilà.
Demain contre Montpellier, victoire à Nice, 1-0. Tout à l'heure, on parlait de Unai. D'ailleurs, bon, on a loué ses qualités de dribbleur. Je regardais ses stats. Hein. Pour l'instant, c'est 0 but, 0 passe quand même, hein, Unai. Hein. Oui. Certes, il pèse, mais.
Mais il y a la dernière passe, c'est-à-dire Roland.
Oui, c'est vrai.
C'est important.
Et le dribble qui va t'apporter peut-être un pénalty ou un coup franc dangereux. Ouais.
Ouais. Tout à fait. Sofiane Boufal également, les gars. Ça fait maintenant deux saisons, presque demi, qu'il est revenu à Angers, là où tout avait démarré pour lui. C'est le leader technique incontestablement de cette équipe.
C'est le maillon fort. C'est comme ça que l'avait appelé Gérald Batik l'année dernière. Il était à 8 buts et 5 passes l'an passé avant de se blesser aux ischios en avril dans ce match contre le Paris Saint-Germain. Il est revenu petit à petit. Ça met du temps. Il était pas capable de jouer 90 minutes. D'ailleurs, il a joué une seule fois plus de 70 minutes. Hein. Pour l'instant, c'était contre Montpellier. Il est déjà à 3 buts et 2 passes décisives en 7 bouts de match. Et surtout, quand il rentre, la lumière est là. Il fait la différence. On l'a vu à plusieurs reprises, alors que Angers était vraiment en grande difficulté. Il a quasiment réussi à refaire basculer les matchs à lui tout seul. Alors, ça ne suffit pas, mais c'est un point essentiel. C'est effectivement le maillon fort de cette équipe.
Et il a aussi un poids en coulisses, comme l'expliquait très bien d'ailleurs dans l'infographie, si vous avez lu le grand journal du sport, l'équipe aujourd'hui, où on avait les hommes forts de la galaxie un peu Angersco. Effectivement, Sofiane Boufal, il a amené ses potes, Ibrahim Amadou, Yann Valéry, l'arrière droit, qui a signé. Voilà, il pèse, c'est l'un des joueurs qui est écouté, l'un des cadres, et c'est aussi l'une des idoles des supporters, parce qu'il est ici, on le rappelle, hein, il a grandi à La Roseraie, un quartier juste à à côté, pas très loin en tout cas du stade Raymond Coppa. Donc logiquement, c'est un joueur qui est censé partir sous d'autres horizons s'il retrouve son niveau. Mais voilà, pour l'instant, il fait ce qu'il faut pour essayer de remonter le score. En tout cas, il est impeccable.
Puis le temps passe. Et il arrive à 29 ans. Hein.
Et il aura la possibilité de briller dans 2 mois.
De faire la Coupe du Monde, bien sûr, c'est un cadre aussi de la sélection marocaine. D'ailleurs, il avait joué les deux matchs, dont un match contre le Chili, hein, d'ailleurs, d'Alexis Sanchez, qui était titulaire. Il avait joué 76 minutes les deux rencontres, Sofiane Boufal, et il sera évidemment à la Coupe du Monde, tout comme Azdin Ounahi.
Avec un dénommé Walid Regragui, que j'ai eu le plaisir de connaître, et qui est pour moi très compétent.
Et d'ailleurs, il y avait 8 internationaux du côté 8 internationaux.
Merci,
du côté du Disco.
Bien sûr. Toi, ça t'arrive jamais.
8 internationaux du côté du Disco et il y en a 12 du côté marseillais, donc c'est aussi intéressant parce que cette trêve, est-ce qu'elle a pas cassé quelque chose dans la dynamique d'Angers? C'est un petit peu l'interrogation quand même. On a hâte de voir.
On a hâte de voir ça, bien sûr, coup d'envoi à 21h avec vous, messieurs, Xavier Grimaud, Pierre-Yves Leroux aux commentaires. T'es un peu déçu par la carrière de Boufal ou pas?
Il va avoir
30 ans dans un an. Hein.
Oui, non, dans le sens qu'évidemment, il aurait pu faire mieux. Mais il a eu quand même, et ça fait partie aussi d'une carrière, d'être chanceux ce qui concerne les blessures. Il a eu quelques blessures vraiment au mauvais moment qui l'ont massacré dans son élan. Et il a chaque fois été obligé de repartir, de retrouver confiance. Mais sinon, un Boufal avec toutes ses possibilités athlétiques et physiques, c'est vraiment
et technique aussi, d'ailleurs.
Un super joueur.
Il est véloce, il est technique, il est rapide. On verra ce soir dans cette affiche pour lui face à l'Olympique de Marseille. Je voulais qu'on parle rapidement quand même, coach de Gerson. Je ne sais pas comment tu expliques, toi. On a du mal à l'expliquer, nous, à distance, bien sûr, son début de saison. Gerson, qui était hyper décisif la saison dernière, 11 buts, 10 passes. Cette saison, 6 apparitions en Ligue 1. Une seule passe décisive, et surtout on l'a vu en Ligue des Champions, c'était un naufrage pour lui.
Oui, puis bon, en plus de ça, un comportement désagréable.
Exactement.
Parce que bon, quand on te sort à la 60e minute, ben écoute, tu viens d'être moyen, c'est pas grave. Mais sortir en traînant les pieds comme ça, sincèrement, si on se met à la place d'un coach, c'est un petit peu pénible. Et je me rappelle que quand ça m'arrivait, j'attrapais le joueur tout de suite le lendemain en disant, dans ton après-football, tu as prévu de faire entraîneur? S'il me répondait oui, j'ai dit, ben, je te souhaite de ne pas avoir des joueurs comme toi dans leur comportement. C'est tout, allez, tu peux sortir.
Donc, pas mal, j'aime bien la méthode de coach Courbis.
Voilà,
c'est du bon sens, c'est implacable. Écoute.
Et donc par rapport à son utilisation, maintenant, on avait un auditeur tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est difficile de dire, est-ce que c'est plutôt un 6-8 qui prend ses élans d'un peu plus bas pour pouvoir construire dans les premières relances, ou plutôt aller un 10-10 et qui fait partie des deux numéros 10, parce que j'appelle ça les deux numéros 10, avec Payet ce soir, de l'organisation de tout Tudor. Et si on utilise Deschamps, c'est un petit détail de maniaque que je vais dire, et que je pense être par moment, parce que je fais très attention à certains petits détails qui pourraient faire de grosses différences. Je vois mieux Payet axe côté gauche, dans les deux numéros 10, et Gerson axe côté droit. Et parce que dans les angles de course et de passe, ils partent en oblique, ça ouvre la possibilité au couloir de faire un appel, et à ce moment-là, ils ont la possibilité de faire une passe croisée ou tout simplement de continuer et de s'appuyer sur un numéro 9. Là, je vais regarder avec attention le positionnement. Pratiquement, on les connaît tous. Sur le plan défensif, le positionnement de Balerdi, voir s'il joue dans l'axe ou côté gauche, et le positionnement aussi de Payet et de Gerson. Et on aura l'occasion pendant le match de faire nos commentaires et de regarder aussi certains petits détails. Et après, il y aura une rentrée qui est pour moi très importante et qui change les choses footballistiquement et aussi la confiance de ses coéquipiers. C'est la rentrée de Sanchez.
Et on sera fixé dès le début de ce match, dans moins de 7 minutes désormais. Angers-Marseille en Paris.
Winamax, les meilleurs cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Johan Bredov. Salut Johan.
Salut messieurs, salut à tous.
Les codes de ce match, s'il te plaît.
4,30 la victoire d'Angers, 3,90 le nul, 1,80 la victoire de Marseille. Marseille invaincu hein, depuis le début de saison en Ligue 1. Tandis qu'Angers reste sur deux victoires, on l'a rappelé évidemment ces dernières minutes. Moi je vois bien le match nul parce que Angers arrive à embêter à domicile Marseille ces dernières années. Il y a eu 0-0 l'année dernière, une victoire de Buzyn il y a deux ans. Donc 3,90 le nul, ou alors on peut se couvrir avec Marseille ne perd pas, les deux équipes qui marquent. Ça c'est pour un peu plus que doubler la mise. Mais en tout cas, il y a peut-être un coup à jouer. Qu'est-ce que tu vois toi, coach, pour cette rencontre?
Disons que compte tenu du potentiel offensif quand même de d'Angers, je vois l'OM prendre un but. Okay. Mais ça ne va pas pour autant les empêcher de gagner. Donc si je ne me suis pas trompé dans le fait que Angers va marquer, mais pour gagner, il faut marquer. C'est la palisse qui parle à ma place là. Il faut marquer au moins deux buts. Donc mettons-nous d'accord sur les deux équipes qui marquent. Mais comme je te propose le 2-1, 3-1, 4-1, il n'y a pas besoin de rajouter les deux équipes qui marquent, puisque c'est dans le 2-1, 3-1, 4-1, ça y est.
Voilà. 4,30, le 2-1, 3-1, 4-1. Marseille, les deux équipes qui marquent, c'est 3,30. Il y a un pari que j'aime bien aussi, c'est un remplaçant marque un but de 50. Ça peut être intéressant avec Alexis Sanchez.
Et puis, il n'y a pas que Sanchez aussi, il y a Diaby.
Et oui, exactement. Et c'est un remplaçant de chacune des deux équipes. Donc ça peut marcher presque à tous les coups.
Merci, Johan.
Winamax, les meilleurs cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans 5 minutes, du coup, d'envoi d'Angers Marseille. Tiens, petite information. Le Sporting Portugal, adversaire de l'OM en Ligue des Champions, mardi à 18h45, mène 2-0 à la mi-temps face à Gil Vicente, championnat du Portugal. Dans un instant, Thibaut Jean-Grand, coach Courbis, Kevin Diaz, pour l'ouverture de la 9e journée de Ligue 1, Angers Olympique de Marseille. C'est sur RMC.
RMC,
l'After Live.